la Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le Greco est mort en 1614 à l'âge de 73 ans. C'était il y a plus de 4 siècles. Mais ses couleurs éclatantes où le vert savane côtoie le jaune citron et le bleu électrique, ses formes allongées et étrangement oniriques, pourraient presque avoir été peintes au XXe siècle sous l'effet pourquoi pas de quelques psychotropes, il n'en est rien. Et voilà son génie, comme nous allons le voir ici, jusqu'à jeudi. Jeudi où le peintre Jean-Paul Marcheschi nous racontera notamment en quoi le Greco est pour lui une inspiration, avant qu'Anne-Sophie Molinier ne revienne sur l'extravagance de ce grand peintre dans bien des domaines. La veille mercredi, nous aurons replacé le maître de Tolède dans son époque, celle du siècle d'or, ce sera avec Guillaume Kienz. Et enfin demain, nous irons dans les salles de l'exposition Greco, qui ouvre mercredi ses portes au Grand Palais à Paris pour évoquer le parcours de l'œuvre et détailler quelques toiles. Ce sera en compagnie de Charlotte Chastel-Rousseau ainsi que de Véronique Gérard-Powell. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter les périples du Greco depuis la Crète jusqu'à l'Espagne, plus généralement pour décrire sa vie, nous sommes en compagnie du romancier et écrivain d'art Pascal Hamel, auteur de nombreux livres sur Gauguin, Rembrandt et récemment encore sur Toulouse-Lautrec. Il a fait paraître l'année dernière aux éditions du Regard l'ouvrage El Greco, le corps mystique de la peinture, un essai en partie biographique. Bienvenue à tous dans la Compagnie des œuvres.
La vie du Greco est une foudre. Elle est célèbre et inconnue. Je suppose que, comme toutes les forces occultes de l'art, il devait jouir d'un grand prestige et d'une incompréhension totale. Aucun portrait de lui n'existe. Peut-être s'est-il peint dans une des figures du comte d'Orgaz. Peut-être sa tête coupée nous est-elle offerte sur le plat de la fraise espagnole, comme le chef de Saint-Jean. Je le devine. Dans l'ombre décrite par Clovio. Il est maigre, sa barbe est en pointe, ses yeux flambent, il doit être tout muscle et tout os. Ses veines, très en relief, alimentent d'une sorte de fièvre sa merveilleuse machine de pur sang. Les mains, n'en doutez pas, sont admirables, faites pour se joindre ou tenir le pinceau dont Gongora nous parle. Qui donna l'âme au bois et la vie au lin.
Et c'est avec cet extrait de texte de Jean Cocteau, dans la voix de Pierre-Marie Baudouin, que nous entamons cette émission. Pascal Hamel, bonjour à vous.
Bonjour.
Cocteau qui dit, ailleurs dans ce même texte, le mythe du Greco, qu'on ne connaît pas le visage de ce peintre, et vous, pourtant, vous avez choisi de placer sur la couverture de votre livre aux éditions du Regard un portrait. Alors, ça n'est pas celui du Greco, j'imagine.
En réalité, vous savez, beaucoup de choses concernant la vie del Greco sont hypothétiques. Mais il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites ces dernières années, avec le succès toujours grandissant d'El Greco. Et on sait aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 représentations, autoportraits, ou en tout cas de personnages extrêmement proches de sa propre stature qui ont été peintes par lui-même.
Alors à quoi ressemble-t-il selon vous ?
Oui, sans doute le portrait là que l'on a sur la couverture.
Celui du chevalier à la main sur la poitrine.
Oui, oui. Et je pense c'est très très probablement... lui. Après, ce n'était pas un artiste, comment pourrais-je dire, dont l'ego était. Il n'avait pas la boursouflure de l'ego, au point de s'auto-représenter sous toutes les coutures. Ce n'était pas vraiment son problème.
C'est comme ça que vous expliquez l'absence d'image attestée de son visage.
Il y a plusieurs choses, si vous voulez. N'oublions jamais qu'il vient de la Crète, qui était de religion orthodoxe à ce moment-là, qu'il était lui-même imprégné de l'esthétique byzantine ou post-byzantine, pour lequel l'esthétique pour laquelle, si vous voulez, la présence est essentielle, mais la représentation illusoire tout à fait secondaire. Ce qui compte, c'est évidemment pas d'idolâtrer l'image, mais plutôt ce qui fulgure, ce qui s'y diffuse.
Et c'est très important, d'ailleurs on y reviendra sans doute au cours de cette émission, cette querelle à l'époque autour de la représentation. Est-ce qu'on sait, parmi toutes les choses qu'on sait plus ou moins, la date de naissance exacte du Gréco ?
Oui, on pense que c'est 1541, mais vous savez, ce n'est pas le plus important. C'est vrai que qu'il soit né en 1540 ou 1541 ou 1542, nous aujourd'hui, qui regardons, qui allons voir cette très belle exposition au Grand Palais, qui est quand même la première fois qu'il y a une introspective de Gréco en France, pour moi, c'est pas l'essentiel. Ce qui est le plus important, si vous voulez, c'est comment se fait-il que aujourd'hui nous puissions nous intéresser à cette œuvre. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y trame? Et c'est là où c'est crucial. Et une partie de la réponse, si vous me le permettez, que il unit ce qui habituellement est séparé. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette histoire du visible et de l'invisible. C'est quelqu'un qui est mu, qui est dans une quête, et il arrive dans ses quêtes à unir le flux et l'arrêt sur l'image, à être parfois dans un raffinement du détail et en même temps dans la pulsion de la touche. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui arrive à dire les multiples facettes qui habitent l'être humain.
Vous êtes en train de nous dire, en parlant du visible et de l'invisible, que ce qu'il faut comprendre d'abord avec le Gréco, c'est le rapport à la religion, c'est que c'est un être religieux.
Plus que religieux, si vous voulez, même si bien entendu il naît dans un contexte précis et que des religions sont là. Je veux dire, la religion orthodoxe est là, la réforme avec l'histoire du protestantisme est là, la contre-réforme avec le catholicisme est là. On ne peut pas le nier. Mais il y a quelque chose d'autre.
Alors parlons déjà de ça.
Oui, mais si vous voulez, si c'était simplement un peintre de la contre-réforme, il ne nous intéresserait pas réellement. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacré. Il y a quelque chose de l'ordre du sacral. Il y a quelque chose de l'ordre du naissant, du premier. Quelque chose, si vous voulez, où vous avez l'impression, face à cette peinture, que la mort est relative. C'est ça qui fait que les artistes ou les peintres du début du XXe siècle, débarrassés d'ailleurs du carcan de la religion, puissent se sont intéressés à cette peinture. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui perdure? Donc, il nous
montre à la fois le terrestre et le céleste. On va déjà très loin, il faudra reprendre un petit peu la chronologie.
Absolument.
Ensuite,
mais... il nous montre, si vous voulez, il essaye de capter, mais j'insiste parce que sinon on ne peut pas comprendre sa trajectoire. C'est quelqu'un qui a en lui, et je vois pas comment on peut l'expliquer, c'est comment le comprendre autrement. Il a la foi, mais une foi très profonde qui est-ce que quelque chose de plus intense et plus durable que nous-mêmes perdure. C'est ça sa question. Alors, bien entendu, il naît en Crète, lui c'est la religion orthodoxe, il va plus ou moins se convertir très certainement comme toutes les élites de cette époque-là, parce qu'il faut dire que la Crète est sous protectorat vénitien, donc on va dire que la classe dominante, la classe marchande, etc., est du côté de ses protecteurs. Très probablement, il se convertit au catholicisme, et c'est ce qui explique que très très tôt, bien qu'il soit né en 1541, dès 1570, donc à l'âge de 25 ans, il va partir à Venise pour parfaire sa formation.
Gréco est un Méditerranéen, et comme tout Méditerranéen, sa carrière est une véritable carrière, c'est-à-dire un parcours, un itinéraire, une odyssée. La civilisation née de la Méditerranée est une civilisation mobile qui transporte de port en port les idées et les formes. Né dans la partie orientale de la Méditerranée, en Crète, Gréco est l'héritier du message de l'Orient, du message de Byzance. Puis, dans sa jeunesse, il se transporte à Venise, et là, dans l'atelier des Bassans, dans la Venise du Titien, il s'initie à l'art occidental. Il est là sur le seuil qui sépare l'Orient méditerranéen de l'Occident méditerranéen. Il est mêlé à toutes sortes d'artistes, dalmates, d'esclavons grecs, toute une colonie d'orientaux qui se mêlent à toute la bigarrure de la population vénitienne, de cette civilisation qui est une plaque tournante, qui est un mélange d'idées et de formes. Et c'est là que commence son initiation à l'Occident, qui s'achève à Rome.
Alors, comme la biographie du Gréco est fragmentaire, dans votre essai biographique, il y a des moments où vous imaginez le Gréco et vous l'imaginez enfant, regardant la crête mauve des montagnes crétoises, les pâtures solaires lustrées d'arbres aux feuilles vertes comme la paume ouverte, écrivez-vous Pascal Hamel. À quoi ressemble, selon vous, et selon ce que vous avez pu aussi découvrir et rechercher dans la documentation, cette jeunesse et cette enfance du Gréco ?
D'abord, on sait qu'il était un surdoué par rapport au dessin. Et c'est un homme, enfin un enfant, un adolescent, qui sans être autodidacte, n'était pas d'une classe élevée. Mais il était curieux, insatiable, je dirais même. Et très vite, il s'est mis à... Bon, il a probablement fait ses études à la bibliothèque Sainte-Catherine, qui était un monastère lié à celui d'ailleurs du Mont Sinaï.
Donc des études qui peuvent être de tout type, à la fois les mathématiques,
oui,
mais aussi pourquoi pas l'astronomie, mais aussi pourquoi pas la géographie.
Mais disons des études, on va dire quand même relativement sommaires. Je pense qu'il est, c'est surtout sa curiosité. Il a très vite lu toute sa vie. Il va avoir des amis, des humanistes, des poètes, des essayistes. Il est extrêmement curieux de tout. Mais c'est quelqu'un qui est à la fois dans le circuit classique, mais qui a toujours fait un pas de côté. Il a une singularité qui fait que il est autre, si vous voulez. Quelque chose d'autre l'habite. C'est ce qui explique d'ailleurs que son style, qui est si particulier, spécifique, et toutes ces, on aura le temps d'y revenir, mais toutes les diatribes, les conflits qu'il a eu avec ses contemporains.
Donc on sait qu'il recopiait aussi un certain nombre de gravures, et qu'il s'est fait la main en recopiant dans,
oui,
sa jeunesse.
Oui, quel est le style qui dominait à ce moment-là Candie, qui était la capitale de la Crète, et ensuite on est revenu au nom antique de Héraclion. Le style, c'est ce qu'on appelait le style, si vous voulez, véneto-crétois. C'est-à-dire c'était un style, on va dire, byzantin, avec ce côté hiératique, avec l'or, les feuilles d'or, avec cette présence du Christ, mais dans son rayonnement, etc. Mais en même temps, déjà avec des formes plus souples, plus diluées, qui était évidemment importé de Venise. Et lui-même, comme vous venez de le souligner, copiait des gravures, puis les gravures ayant toujours permis la circulation des œuvres, avant l'âge moderne. Il avait lui-même déjà copié des gravures qui de Corrège, de Pontormeau, de Titien. Bien entendu, Titien étant le grand maestro de Venise, et Venise étant la cité qui dominait la Crète, il ne pouvait pas ignorer Titien, y compris d'ailleurs son statut, qui était tout à fait différent de celui d'un artisan d'art, qui était finalement même un haut artisan d'art, qui était finalement un peintre byzantin, comme il l'était.
Voilà, c'est toute la différence entre le Gréco de ses jeunes années, qui, lui, aspire à devenir un artiste alors qu'il n'est considéré que comme un fabricant, finalement, un artisan d'art.
Oui, c'est la spécificité de Venise. Ça, c'est le génie de Venise qui fait que les artistes, de par le contexte et aussi sans doute de par leur intelligence, comprennent à un moment donné comment advenir en tant que singularité et comment se faire respecter en tant que singularité.
Alors, il faut dire aussi que entre Venise et la Crète, il y a un trafic très important. Finalement, on passe de l'un à l'autre très vite. Les images circulent aussi beaucoup du fait de ce protectorat vénitien. Mais il n'empêche pas, il n'en reste pas moins que faire le trajet et décider d'aller vivre à Venise comme va le faire le Gréco, c'est tout de même une décision importante.
Alors c'est une décision, cela dit, qui n'est pas totalement surprenante. Parce qu'on peut dire que bon, la Crète à côté de Venise, évidemment, ça ne joue pas dans la même catégorie. Je voulais Venise, bon, c'était Venise, déjà une puissance maritime, économique.
Qui ne ressemble pas tout à fait à la Venise qu'on connaît nous.
Non. Parce qu'on était en train de construire les principaux monuments. Mais il y avait déjà la basilique Saint-Marc, par exemple. Et il y avait déjà des peintres, et pas des moindres, puisqu'on a cité Titien, mais il y avait évidemment déjà Tintoret, et Véronèse, et les Bassano, et Bellini, qui était encore vivant. Bref. Son père est mort lorsqu'il était jeune, Gréco. Sa mère, on ne sait pas grand chose d'elle, sinon qu'on suppose que sans doute elle était orthodoxe et peut-être son père était déjà catholique, mais enfin qu'importe, puisqu'en réalité il y avait des passerelles entre les deux religions.
Son père était collecteur d'impôts.
Il était collecteur d'impôts, c'est ce qu'on pense. Manoussos, son frère, lui, c'est sûr, et il était même attaché à la douane de Venise, il travaillait à l'arsenal. À côté du quartier del Greci, là, le fameux quartier qui est proche d'Arsenal, où il y avait déjà 4000 Grecs qui étaient installés là-bas. Bref, son frère étant là-bas, lui-même voulant apprendre des nouvelles manières et sans doute mieux vivre de son art, et sans doute mieux considérer. Bref, il part vraisemblablement janvier ou février 1570. Il a à peine 25 ans, il part à Venise. Et mon hypothèse, c'est qu'il rencontre, contrairement à ce que disent d'autres, mais moi je le pense parce que c'est par rapport à ses œuvres, à ce qui s'y joue, je pense qu'il rencontre Titien.
Alors pourquoi choisit-il Titien alors qu'il aurait pu choisir beaucoup d'autres peintres vénitiens d'une importance égale?
C'est peut-être moins lui qui choisit Titien que l'inverse. C'est-à-dire que je ne dis pas que Titien va choisir Gréco. Ça serait incongru, parce que Titien, il est le sommet de son art. Mais il y a quelque chose. D'abord, le vieux Titien le Vénérable, je vous dis, il a 80 ans. Il a pris son atelier à ce qu'on appelle Dei Berri, au nord de Venise. Il est en face, finalement, de la lagune, il est en face de Torcello, il est en face, etc. Et il s'est un peu retiré. Si vous voulez, il est à la fois évidemment là, il a déjà eu Charles Quint, il est connu dans toute l'Europe, il est vénéré, etc. Mais il s'est retiré parce que quelque chose se passe à ce moment-là à Venise, qui est, je dirais, le c'est comme ça, mais ça arrive souvent, qui est que le décorum, le décor prend un peu le pouvoir sur, on va dire, bon, si on veut quelque chose comme ça dans une antithèse, sur une profondeur. Or Titien, c'est un peintre immense, puisqu'il va, il fait tout simplement le pont entre le Quattrocento, ce style sublime, un peu hiératique du Quattrocento, jusqu'à, en passant ensuite après par les femmes, les Vénus, une manière profane, etc., jusqu'à ces dernières œuvres qui sont tout simplement sidérantes, puisque c'est la matière qui s'y joue, la matière, la touche, quelque chose, si vous voulez, comme s'il voulait capter l'or crépusculaire de la vie qui permet d'affronter la mort. Et cette question-là, si vous voulez, cette histoire de vie qui perdure, cette vraie question qui traverse l'art de Titien, eh bien, il s'avère qu'il va la rencontrer aussi chez le jeune Gréco.
Les compositions de Gréco sont parfois en triangle. Mais au lieu d'être en triangle pyramidant, c'est-à-dire bien solidement installé sur la base, il retourne le triangle, c'est en pointe, c'est un V. Et c'est le V du jaillissement. Le V, c'est l'image même d'un... Quand un volcan explose, eh bien la projection se fait selon un V. Et c'est par là qu'il exprime la montée fulgurante depuis le monde terrestre jusqu'au monde céleste. L'enterrement du comte d'Orgaz est tout à fait typique. En bas, le cadavre, le mort en armure horizontale, porté horizontalement, pesant, matériel. Puis au-dessus de lui, tout d'un coup, l'âme qui s'est échappée, toute petite âme blanche qu'on voit monter, et qui passe dans une sorte de goulot formé par les nuages. Et puis au-delà du goulot, elle jaillit. Je m'excuse de la comparaison, comme un bouchon de champagne qui sortirait justement du goulot d'une bouteille, jaillit où ? Dans le monde céleste, dans le monde divin, et où elle est accueillie alors là, dans cet autre univers.
Compagnie des œuvres sur France Culture, c'est à ce monde divin que vous faisiez référence, Pascal Hamel.
Je pense que, si vous voulez, Titien cherche dans la matière, à la fin, le dernier Titien, il cherche dans la matière à délivrer de l'immatériel. Et c'est ça qu'il va croiser. Il va être troublé par ce jeune Candiote de 25 ans. C'est aussi le grand-père, si vous voulez, le grand-père qui tout à coup voit
qui se reconnaît peut-être
qui voit
aussi
son petit-fils avec un jeune type là qui arrive, qui est complètement, qui est pas mondain du tout, qui est entier, qui est un peu brusque,
qui est assez ombrageux,
qui est un peu ombrageux, mais qui a la foi enracinée en lui et qui sait que c'est à travers l'œuvre que ça doit passer et qui est admiratif face à Titien. Alors, bien sûr, un esprit comme celui de Gréco, à Venise, à ce moment-là, il va défendre, toute sa vie, il va défendre cette espèce de couleur, de matière, de pulsion, de les noces de la main et de l'esprit que vous voyez dans l'esprit, dans l'art vénitien. Bien entendu, il voit Tintoret, bien entendu, il voit Bassano, bien entendu, il voit Véronèse. Mais quelque chose de la démarche intrinsèque de Titien va le séduire énormément, à tel point que, vous savez, dans cette lutte qui est esthétique, qui a été à la fois profonde et féconde en Italie du Nord, autour d'une part de Titien et d'autre part de Michel-Ange, c'est-à-dire d'une part la couleur, si l'on veut, ce que je disais, la pulse, le flux, la sensualité, et d'autre part ce côté, le dessin, le contour, le côté toscano-romain, ça vient de à la fois de Florence et de Rome, dont Michel-Ange, évidemment, le champion absolu. Si vous voulez, comme étant donné qu'il est d'abord et avant tout un immense sculpteur. Et la sculpture, évidemment, elle est d'abord un contour. C'est une certitude. Cette lutte, si vous voulez, entre le parangon, comme on dit, de manière un peu savante, le parangon entre la sculpture et la peinture, l'un étant Titien, l'autre étant Michel-Ange, bien entendu, et de manière, je dirais, violente, Gréco va défendre la peinture. Pour lui, c'est la peinture qui peut capter la multiplicité de l'être, et non pas la sculpture. Pourquoi ? Si je puis me permettre, pourquoi ? Parce que, pour lui, dans la peinture, il y a simultanéité. C'est-à-dire que la chose vous est donnée dans l'immédiateté, alors que la sculpture, vous devez forcément tourner autour.
On dit aussi que la peinture, la couleur, c'est l'émotion. Et le Gréco, il est tout entier dans l'émotion.
Il est dans l'émotion, il est dans la sensation, il est dans le corps, il est dans l'esprit. Pourquoi ? Je pense que fondamentalement, c'est que pour lui, cette union-là, ou cet entre-là, c'est ça qui va délivrer l'âme. Et c'est ça sa quête. C'est est-ce que quelque chose perdure ? Alors l'œuvre perdure, certes, mais est-ce que quelque chose de l'être perdure ? Est-ce qu'il y a un noyau dur qui en nous serait qui serait imputrescible ? Je pense qu'il est mu par ça. Il est travaillé par ça. Parce que sinon, comment aurait-il pu oser dire, lorsqu'il va être à Rome, quelques années plus tard, en 1576, il se retrouve dans le cercle d'Alexandre Farnèse, qui est un cercle de lettrés, de copistes. Bon, c'est le petit-fils de Paul III, hein, Alexandre Farnèse, extrêmement riche, un mécène, un humaniste, un grand admirateur de Michel-Ange qui est décédé 8 ans plus tôt. Je crois que Michel-Ange décède en 1564. Je veux dire, il est chez les Michel-Angelesques, quoi. Ils sont tous fanatiques. Et lui, il trouve rien de plus intelligent à dire pour se faire des amis, si je puis dire, que finalement Michel-Ange, il sait pas peindre. Et que lui, si on lui donnait la chapelle Sistine, il la repeindrait avec plaisir.
Mais ça ne va pas faire tellement plaisir, cette déclaration.
Évidemment, il s'est fâché avec tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que pour lui, me semble-t-il, il voulait, bon, évidemment qu'il voyait bien que Michel-Ange était un génie. Il voulait évidemment qu'il voyait bien que la chapelle Sistine et qu'il était impressionné. Parce que quand même, mais il se dit c'est pas possible, ça va pas être des corps aussi beaux, des corps athlétiques, des corps. Bon, lui c'était trop profane. Il y avait quelque chose de l'élévation, quelque chose de l'ascension, de l'élan vital, si vous voulez. Comment décoller, comment aller du côté. C'était pas assez elliptique, c'était pas assez du côté de la plongée, de la contre-plongée. Bon, lui ça manquait de profondeur. C'était génial, mais c'était de la surface.
Mais alors, ce peintre de la couleur, disciple du Titien, qui va à Venise, je reprends un petit peu les choses.
Oui, qui est à Venise.
Qui est à Venise, qui est du côté, on l'a dit, d'une espèce de profondeur qui est à la fois céleste et qui se traduit directement par de l'émotion. Il va à Florence d'abord, où il passe à Florence, où donc il apprendrait aussi davantage le dessin. La sculpture, et puis, enfin, la sculpture au sens où vous la définissez, de Michel-Ange. Et ensuite, il arrive à Rome. Donc c'est ce trajet-là.
Alors vous avez tout à fait raison d'insister sur ce trajet, avant bien entendu de critiquer Michel-Ange. Enfin, c'est une critique, en même temps, c'est lié à une admiration. Il sait très bien que Michel-Ange était extraordinaire. Et d'ailleurs, certaines de ses peintures vont reprendre des Pietà, par exemple, de Michel-Ange. Pietà inachevée de Michel-Ange, qui sont des chefs-d'œuvre absolus. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe qu'il va passer, effectivement, pour aller à Rome. Il va pérégriner, il va s'arrêter dans quelques villes cruciales pour ce qu'on appelle le maniérisme. Hein, les Corrèges, les Pontormo, les Parmigianino, etc. Peinture maniériste, ça c'est très très important, si vous voulez, pour comprendre.
On va en parler toute la semaine, mais c'est bien de le définir déjà une première fois.
Le maniérisme, si vous voulez, c'est d'abord et avant tout un anticlassicisme. C'est-à-dire que face à l'équilibre, l'idéal, l'espèce de magie, hein, de beauté idéalisée, de que Raphaël et justement notre fameux Michel-Ange et Léonard de Vinci ont réussi à théoriser et tout simplement à concrétiser un certain nombre d'œuvres qui sont toutes sublimes. Le maniérisme, lui, sent que l'époque est très loin de cet idéalisme. N'oublions pas que nous sommes dans les guerres d'Italie. N'oublions pas que la réforme fait rage, que les guerres de religion sont présentes, que la contre-réforme, comme son nom l'indique, est une bataille. Bref, les maniéristes, comme beaucoup d'artistes, d'ailleurs, parce que vous savez, des artistes qui ne sont pas conscients de l'époque dans laquelle ils sont, les grands artistes qui ne sont pas conscients des enjeux de l'époque dans laquelle ils vivent, ils sont très rares. Les maniéristes, il y a un trouble, si vous voulez. Il y a une perturbation, et ils la traduisent dans ce déplacement, dans cette distorsion, dans cette ellipse, dans ces couleurs inusitées. C'est-à-dire que tout à coup, ce monde idéalisé, extraordinaire, hein, bien entendu, hein, on va pas se mettre à critiquer Léonard de Vinci. Extraordinaire. Mais que ce monde, finalement, est une vue de l'esprit. Les maniéristes, ils veulent dire quelque chose de la vérité du monde, y compris dans son cauchemar de l'histoire.
Donc il y a une ouverture du Gréco sur l'autre, sur l'extérieur, que n'aurait pas Michel-Ange, par exemple, qui serait plus enfermé dans une esthétique de perfection.
C'est une question aussi de la génération, hein. Je veux dire, là, on est, c'est tout bête, mais ils sont jeunes, les maniéristes, ils sont, par rapport à si vous voulez, cette génération des grands classiques. Et bon, ils sentent que quelque chose qu'il y a quelque chose de formidable, mais presque de trop idéalisé. Il y a quelque chose, si vous voulez, de l'ordre du profane qu'ils veulent pénétrer dans leur art. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont abandonner leur quête de la beauté ou leur quête, je dirais, de la sublimation, ou même du sublime, tout simplement, voire du divin. Corrège, c'est complexe, c'est à la fois très sensuel, très profane, et en même temps une espèce de dimension presque magique, enfin magico-religieuse quasiment. Donc le Gréco, ça l'intéresse parce que lui-même, il n'est pas dans cette forme, si vous voulez, néo-platonicienne, idéalisée. Il vient des Byzantins qui eux-mêmes refusent l'illusionnisme, refusent un réalisme aussi sublime soit-il. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est comment, à partir d'une subjectivité, restituer quelque chose qui dépasse cette subjectivité.
C'est peut-être en Espagne qu'il va le trouver. Trois années à Venise. Combien d'années à Rome, Pascal Hamel, avant d'aller en Espagne?
Bon, on pense qu'il arrive, si vous voulez, en gros, en septembre, en automne 1570, à Rome, après avoir fait cette pérégrination dans les villes du Nord, où il voit ses maniéristes, et qu'il repart vraisemblablement six ans plus tard, en septembre 1576, en Espagne.
Donc pas convaincu du tout, finalement, par l'Italie?
Il y a une chose absolument essentielle, c'est qu'il va capter ces nouvelles formes, hein, que ce soit de la couleur de Titien, comme on en a parlé, on l'a évoqué, bien entendu, cette espèce de virtuosité que les maniéristes ont.
Une technique aussi. Ouais.
Voilà, des techniques. Il va capter parce que c'est quelqu'un, bon, c'est quelqu'un qui est extrêmement doué, qui lit, qui va noter Vitruve, qui va noter Vasari, qui va faire des cartes parce qu'il est engagé. On a oublié de dire qu'à Rome, il est engagé dans cette bibliothèque, mais avant tout pour faire des cartes. Les cartes des Portulans.
Et c'est l'époque, etc., où les cartes, elles changent beaucoup, parce qu'on est en train de découvrir
absolument,
le nouveau monde,
bon, Vasco de Gama, etc., etc. Bon, et il capte tout ça, mais il y a quelque chose qui ne le satisfait pas. Il pensait que Rome serait la seconde Jérusalem, hein, parce que
il a la foi. Rome croyait aussi être la
même Jérusalem. Même si c'est un homme qui jouit de la vie, mais il a la foi. Donc, ça va pas. En plus, ce sont les courtisans. C'est un monde, si vous voulez, où bon, il faut toujours dire oui quand il faut dire oui. Et puis lui, c'est pas son truc. Lui, il a quelque chose qui le meut, qui est particulier, qui cherche. Et puis, voilà. Il entend parler que le roi très catholique, on disait le roi très catholique à ce moment-là, Philippe II, pour l'Escurial.
Donc le Grand Palais,
qu'il est en train de
près de Madrid,
voilà, 60 km au nord de Madrid, cherche, ou en tout cas engage, des artistes, et la mode à ce moment-là, vous voyez, c'est pas les Américains comme aujourd'hui chez nous, c'est à l'époque, c'était les Flamands et nos fameux Toscano-Romains, c'est-à-dire bon, en gros les gens de Florence et de Rome, plutôt maniéristes, plutôt décorateurs d'ailleurs. Et lui, pris dans, il se dit que fort d'une lettre, alors bon, on sait pas trop si elle est tout à fait exacte. Enfin bon, c'est toujours les mêmes problèmes avec Gréco. En gros, on ne sait pas grand-chose au Gréco jusqu'à ce qu'il arrive à Tolède, où heureusement pour nous, les archives de Tolède nous permettent d'être plus précis.
Donc il faut imaginer qu'il y a tout un flux comme ça d'artistes qui partent d'Italie et qui arrivent à l'Escurial.
Absolument, qui arrive, bon, qui débarque à Barcelone ou à Valence, on ne sait pas exactement.
Alors lui est passé par Marseille et par Barcelone.
Oui, bien sûr, c'est ça, c'est la route, voilà, il prend le bateau et il passe par Marseille, il arrive vraisemblablement à Barcelone. Moi je pense que c'est Barcelone, parce que c'est plus simple. Bon, d'autres disent Valence, enfin qu'importe, il va avec, et ça c'est pas indifférent, parce qu'il a un aide, Francesco Probeste, ou Proveste, ça dépend. Un V ou un B, ça dépend des auteurs.
En espagnol, ça change pas beaucoup.
Mais enfin, bon, voilà. Et qui l'accompagne. Et qui est, parce que, vous savez, à l'époque, les tableaux, les œuvres religieuses, la plupart du temps étaient religieuses. Il a fait quelques portraits, hein, bien entendu, très importants, tout le long de sa carrière. Mais, principalement, quand même, ce sont des œuvres religieuses. Elles s'inscrivent dans des retables. Qui sont à elles-mêmes, qui sont eux-mêmes des sculptures planes, si l'on peut dire. Mais, voyez, des panneaux, etc., etc. Il faut savoir les faire. Oui, c'est avec des feuilles d'or, avec des volumes, des tridimensions. Je pense que Probeste était un spécialiste des retables et l'accompagnait pour, comme un compagnon, si vous voulez. Et, me semble-t-il, compte tenu du caractère de Greco qui était hanté, en réalité, par sa quête. Je pense que c'est Francesco qui avait les pieds davantage sur terre et qui lui a permis de mieux gérer toutes les problématiques de contrat, etc., toutes les polémiques, parce que Greco était conscient de sa valeur et il pensait aussi tout simplement que s'il demandait des sommes conséquentes pour ses œuvres, eh bien, il serait davantage respecté.
Et puis, il continue son odyssée, il continue son périple, et ce pèlerin spirituel arrive à Tolède. Et c'est là qu'il se fixe, c'est là qu'il trouve son lieu et sa formule. Il le trouve dans l'Espagne du siècle d'or. On vous a expliqué dernièrement ce qu'a été ce grand œuvre de Philippe II, l'Escurial. Eh bien, c'est grâce à l'Escurial que Greco se fixe en Espagne. Il est appelé là, attiré par toute cette énorme invitation aux artistes étrangers que Philippe II a lancé dans le monde afin de les faire participer à son grand œuvre. Et cet étranger qu'est le Greco, ce grec, sera conquis par l'Espagne, s'intégrera à toute l'œuvre du siècle d'or espagnol. Et ainsi que cela arrive souvent, cet étranger deviendra un des plus grands Espagnols, un des Espagnols les plus espagnols. Il exprimera le plus profondément, de la façon la plus authentique, l'âme espagnole, l'âme de cette époque de l'Espagne.
La compagnie des œuvres. Alors il y a un petit paradoxe quand même, Pascal Hamel, c'est que le Greco fuit Rome parce qu'il n'aime pas les intrigues de cour, et le voilà qui arrive à Madrid d'abord, ensuite à Tolède, on va le voir, mais d'abord à Madrid, et il devient un peintre de cour au fond.
Alors avant, si vous voulez, il faut savoir qu'il a rencontré à Rome, puisqu'il était employé à la bibliothèque de Fulvio Orsini, là, qui dépendait d'Alexandre Farnèse, le père et le fils des Don Diego et Luis de Castilla. Et c'est intéressant parce que le Luis de Castilla, on pense que c'était un fils naturel. Je reviendrai là-dessus. C'est-à-dire donc, entre guillemets, un sang impur. Je dis bien entre guillemets. Et il s'avère que ça soit Don Diego, que ça soit Luis de Castilla, ils sont très importants. Ce sont des gens très importants. Non seulement ce sont des collectionneurs, des mécènes, mais ils ont leurs entrées à Tolède, à tel point que Luis de Castilla finira par être le prieur principal de Tolède. Donc je dirais, fort de cette recommandation, il part tambour battant, hein, voir le roi très catholique, en pensant que bon, puisqu'il a la vraie foi, etc., ça va, oui, c'est quelqu'un qui est naïf aussi, Greco.
Ah, de fait, on lui propose de peindre un tableau, le martyr de Saint-Maurice.
Alors voilà, alors il arrive là-bas, bon, je pense que très vraisemblablement il rencontre pas le roi, mais il rencontre déjà, bon, bien entendu, ceux qui sont chargés de l'Escurial. Il est en terre. et demi, parce qu'en réalité, il y a déjà les décorateurs, les toscano-romains, etc., qui voient arriver ce type, qui en plus est ombrageux, plein de talent, parce qu'il est quand même adoubé, barticien, donc un concurrent, quoi, en gros. Et il va, bon, c'est un petit peu après qu'il soit allé à Tolède, enfin, qu'importe, il est entre Tolède et Madrid pendant quelques années. C'est pas très important. Le plus important, c'est qu'effectivement, on lui passe finalement une commande par le biais de Sanchez Coelho, qui est le portraitiste officiel du roi, et qui, bien qu'il soit très loin de son esthétique, voit bien que c'est un ovni, quoi, que c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, il lui commande une œuvre, qui est le Songe Philippe II, par rapport à la bataille de Lépante, que les Espagnols, enfin que les Méditerranéens, les Vénitiens, les Espagnols, c'est-à-dire la Ligue, ont gagné contre les Turcs, parce qu'entre-temps les Turcs ont pris Chypre, ce qui fait que Gréco, il est très très troublé.
Il faut toujours avoir ça à l'esprit en fait, oui. Et on l'oublie évidemment quand on va voir une exposition du Gréco, mais c'est que la politique, elle est forcément dans sa tête tout le temps.
La politique, ou plus vastement, je pense, si vous voulez, le cauchemar de l'histoire. Je pense qu'effectivement, un homme comme Gréco, qui ne cesse de penser à ce qui peut perdurer au-delà de la mort, qui ne cesse d'être hanté par une vie avec le grand V, si vous voulez, la vie, bien entendu que tous ces massacres, toutes ces morts d'innocents et tout, ne peut que l'épouvanter. Et l'Inquisition, la présence de l'Inquisition, d'ailleurs, le trouble, le perturbe fortement. Bref, pour revenir sur notre toile commandée par l'Inquisition, entourage de Philippe II. Il n'est pas du tout exclu que Philippe II l'ait trouvée intéressante, mais bon, bref, ça intrigue, on le relègue, il est au second plan, on accepte son homme, mais il n'est pas considéré, bref, il est déçu. Par contre, Luis de Castilla, Don Diego et Luis de Castilla, l'invite à Tolède, où il a sa première commande d'importance, et qui va être un chef-d'œuvre absolu, qui est l'Espolio.
Alors, il y a l'Espolio, et puis très vite après, il y aura l'enterrement du comte d'Orgaz, dont il faut peut-être dire un petit peu un mot, parce que c'est sans doute l'œuvre la plus célèbre du Gréco. À bon droit, selon vous, Pascal Hamel?
Bon, je pense qu'à un moment, si vous voulez, c'est un peintre tellement inouï que on peut citer 10, 20, 30 œuvres qui sont absolument extraordinaires, incontournables. Mais il est certain que la dualité dans l'enterrement du comte d'Orgaz, parce que c'est une dualité, hein, il y a donc le plan, voilà, il y a on peut dire au premier étage, on peut dire, enfin, en bas de l'œuvre, vous avez le corps du comte d'Orgaz avec je ne sais plus quels sont les deux saints, je crois que c'est Saint Michel et Saint Georges, enfin bon, deux saints qui le tiennent dans ses bras, et puis vous avez un prêtre, vous avez quelques dignitaire de Tolède. On pense que Gréco se serait peut-être présenté lui-même, d'ailleurs. Il y a un enfant qui est son fils, Georges Manuel, et il y a un deuxième plan, un plan supérieur où l'âme du comte d'Orgaz, représentée d'ailleurs par un enfant, un nourrisson, est reçue par un vortex digne de Gréco, un espèce de vortex, un espèce d'ectoplasme, à la fois utérin et cosmique, à la fois avec des couleurs, à la fois psychédélique et d'une sensibilité extrême. Bref, il s'agit effectivement plus d'une unidualité, si on peut dire une chose comme ça, les deux pans finalement de l'être, quoi, le terrestre et le céleste, le vif et le mort, qui sont représentés dans une seule œuvre. Bon, c'est évidemment très impressionnant. J'en profite pour dire quelque chose qui est rarement dit, mais finalement cette représentation que vous avez tout le temps de l'enfant, vous voyez, avec un E majuscule, etc., de l'enfant dans le catholicisme, etc. L'enfant, si, il faut comprendre que c'est l'âme. Si on comprend que c'est l'âme, tout devient logique.
À la fin de sa vie, vous savez que le Gréco a connu une espèce de décadence, il a connu des difficultés, le nombre des commandes a diminué, il a été accablé de dettes. Un de ses contemporains, les historiens, nous rapportent, il gagna beaucoup de ducats,
mais il les dépensait dans l'excessive ostentation de sa maison, jusqu'au point d'avoir des musiciens salariés pour, durant ses repas, jouir de toutes les délices. C'est encore un de ces témoignages qui nous permettent d'imaginer le caractère du Gréco, son caractère fastueux, son caractère de neurasthénique solitaire, extrêmement sensuel. Nous savons aussi par les nombreux documents concernant des procès qu'il était d'humeur très orgueilleuse et acariâtre. Il réclame toujours des prix supérieurs à ceux qui ont été fixés, s'élève avec indignation contre les rabais que les couvents qui lui ont fait des commandes essayent de lui imposer. Il a un grand sentiment, certes, de sa dignité d'artiste et de la valeur de son génie. Et il défend avec violence ses prérogatives de grand artiste.
Alors, est-ce que le comte d'Orgaz rencontre un tel succès, ce tableau, l'enterrement du comte d'Orgaz, que le Gréco devient une espèce de star à Tolède, on va le chercher pour faire un certain nombre de tableaux. Comment se passe ensuite ces années tolédaines?
Il a à la fois des ennemis qui supportent pas, si vous voulez, ce style qu'effectivement certains qualifient d'extravagant et que nous pouvons qualifier de maniérisme extrême, en tout cas de singularité absolue. Et par contre, d'autres sont fascinés par cette nouvelle manière. Et en particulier, il a un cercle qui va se constituer autour de lui, de prélats, ou de d'humanistes, si vous voulez, qui sont dans la lignée d'Érasme, qui sont des Européens avant la lettre, qui effectivement comprennent que ce style qui veut unir ce qui d'habitude est séparé, c'est aussi une vision idéologique.
C'est-à-dire unir le réalisme et l'abstraction,
par exemple, mais aussi unir finalement le profane et le sacré, unir les parce que, en somme, si on y réfléchit, avec ce primat de la présence qui l'obsède et qui vient du byzantinisme, avec cette technique qui lui permet ses plongées, ses contre-plongées, ses volutes, etc., qui lui viennent du maniérisme. Et enfin, cette ferveur, ce mysticisme qui est à l'œuvre dans différentes réalisations, et qui vont aller d'ailleurs de plus en plus loin, parce que ces dernières œuvres sont habitées. Bref, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la synthèse du christianisme méditerranéen. C'est le peintre qui a opéré la synthèse du christianisme, de l'esthétique du christianisme méditerranéen. Et pour preuve, il y a l'avènement de la Vierge. C'est très important. C'est lui le premier qui va à ce point mettre la Vierge ou la fille mère à la fois la femme de chair puisqu'elle enfante et en même temps la mère de Dieu, donc divine et immaculée, si vous voulez. Voilà, on est dans quelque chose d'à la fois rationnel et irrationnel. C'est lui qui va le mettre en œuvre et qui va devenir l'une des icônes principales du XVIIe siècle espagnol.
C'est un peintre de l'amour divin. Dans sa vie, quels ont été ses amours? Il a été marié, on dit qu'il a laissé une femme aussi en Crète, qu'il a ensuite fréquenté les prostituées à Venise, mais la femme de sa vie, c'est Jeronima de las Cuevas.
Alors c'est toujours pareil, tout est hypothétique. Bon, moi ce que je suppose, si vous voulez, c'est deux choses. Soit effectivement l'extrême discrétion concernant Jeronima de las Cuevas prouverait qu'elle était soit marane, c'est-à-dire une juive convertie au christianisme, parce qu'on l'appelait les faux chrétiens, mais c'était parce que c'était très très dangereux, hein, à l'époque avec l'Inquisition, on pouvait mourir brûler sur un bûcher, soit une morisque, c'est-à-dire quelqu'un d'origine musulmane, ou peut-être qu'elle était d'une origine, extrêmement simple. Ce qui fait que on a passé sous silence ce lien. Mais dans le fond, c'est pas, une fois de plus, c'est pas très important. Le plus important, c'est que il a, dans ses œuvres, il a la capacité de restituer la beauté, soit féminine, soit masculine.
Oui, parce qu'on a dit aussi, en regardant notamment ces Saint-Sébastien, qui sont en effet très beaux, il y a de l'érotisme aussi dans les peintures de nus masculins, ou
absolument.
Les figurines masculines.
On peut dire que chez les femmes, c'est plutôt des jeunes filles, il va plutôt du côté de la sublimation, il y a quelque chose de nacré, il y a quelque chose d'une chair élancée, enfin, avec des regards. C'est quand même extrêmement beau. Et Saint-Sébastien, bon, effectivement, il veut montrer que la nudité, contrairement à Michel-Ange, justement, dans son esprit, ou en tout cas les Michel-Angelesques, parce que c'est toujours pareil, c'est plutôt les suiveurs qui l'irritent, ce qu'on peut comprendre, que contrairement, si vous voulez, au Michel-Angeles, bon, c'est pas une question de muscles, c'est pas une question de non. C'est quelque chose, si vous voulez, le Saint-Sébastien, il est à la fois, effectivement, c'est un nu, c'est un corps qui est présent.
C'est un regard
mais,
aussi.
Mais voilà, mais il y a quelque chose il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il y a un abandon, il y a une perte, si vous voulez. Il y a une perte qui est peut-être même un don. Il y a un autre portrait que moi personnellement j'aime énormément, qui est son tableau de Saint-Martin qui partage son manteau, la fameuse légende.
Saint-Martin sur son cheval, qui ressemble d'ailleurs à un tableau de Picasso.
Que Picasso va reprendre, bien sûr. Bon, qui est un tableau tout à fait prodigieux, parce que qu'est-ce que c'est que ce manteau vert, fluorescent, avec jaune, etc., etc., si ce n'est la peinture elle-même, si ce n'est la toile. Je crois que c'est la transmission. Transmission entre deux hommes, transmission, si vous voulez, de soit peut-être du père au fils, d'ailleurs, c'est pas exclu, puisque Georges Manuel, son fils, est devenu peintre, peut-être deux compagnons, et là on peut tout y lire. Est-ce que c'est biologique, est-ce que c'est une transmission biologique, est-ce que c'est une transmission symbolique, est-ce que à la limite, pourquoi pas, bon, chacun voit ce qu'il veut, deux amants, mais l'important c'est ça, qu'est-ce qui se passe, c'est ce geste de partage d'un manteau, mais qui est en réalité un morceau de lin, qui est un morceau d'étoffe, qui est une toile. C'est la peinture en partage.
Ce tableau qu'on verra sans doute demain dans la visite de l'exposition Gréco du Grand Palais. Comment est mort le Gréco? Il était malade, Pascal Hamel?
Il a fait à la fin de sa vie une série d'apôtres, des 12 apôtres, plus le Christ au centre, qui sont des portraits d'un mètre sur un mètre, qui sont absolument extraordinaires, où il réduit sa palette à l'essentiel, sont quasiment des monochromes, avec les attributs de chaque saint par rapport à sa fonction, hein, par exemple, je sais pas moi, Saint Jean avec la Bible, tel autre avec l'instrument de son supplice, et il va mourir en 1614.
Il est déjà assez âgé, cela dit.
Assez âgé, il a 73 ans, on pourra dire qu'il a donc passé une moitié de sa vie à Tolède, quoi, en tout cas entre Madrid et Tolède, principalement à Tolède, une moitié de sa vie en Espagne, l'autre moitié donc effectivement en Crète, et puis ensuite Venise et Rome. Bon, il a quelques dettes, effectivement, parce qu'il a eu un...
Il y a trop de musiciens qui l'invitent pour danser.
Il y a de ça, c'est quelqu'un qui est un peu du côté de l'excès, on l'a compris. Alors parfois, quand il a pas beaucoup d'argent, il devient tout à coup extrêmement, dur, enfin, tenace avec ceux qui l'ont commandité, parce qu'il estime qu'on le paye pas suffisamment. Il veut aussi que ça soit, il veut inaugurer le statut de l'artiste, quoi, en sortir du haut artisanat ou de dépendre des puissants de ce monde. Il veut ça. Et puis quand il reçoit son argent, c'est clair, ça file. C'est magique, l'argent, quand ça file.
Il est du côté de l'excès, comme Toulouse-Lautrec, à qui vous avez consacré aussi un livre. C'est un autre peintre qu'on n'a pas du tout envie de rapprocher du Gréco, mais vous les avez rapprochés tous les deux, Pascal.
Alors, je ne les rapprocherai pas, mais si vous voulez, comment s'est-il effectivement que j'ai écrit, après le Gréco, bon, j'avais écrit un livre sur Rembrandt, là c'est plus évident par rapport à Gréco, parce qu'ils sont Rembrandt et hanté. Mais y réfléchissant, si vous voulez, Lautrec, y a quand même, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas, mais il y a deux points communs. Le premier point commun qu'ils ont, c'est que les deux ont fait un pas de côté par rapport à leur époque. Si vous voulez, le Gréco, bon, c'est une suite de départ, de rupture, d'arrangement, mais compliqué, etc.
Le deuxième point commun,
il est hanté, et Toulouse-Lautrec lui fait un pas de côté, évidemment, puisqu'il vient de la grande aristocratie, etc. Il choisit la marge. Et le deuxième point, c'est évidemment le mouvement, la fascination du mouvement, de la fulgurance.
Merci beaucoup, Pascal Hamel, d'être venu nous présenter ce parcours du Gréco de la Crète à Tolède. Parcours que, évidemment, on va bien reprendre sous diverses formes tout au long de la semaine. Pour aller plus loin, je renvoie nos auditeurs à votre livre El Gréco, le corps mystique de la peinture, paru en 2018 aux éditions du Regard. Tout de suite sur France Culture, on retrouve En Compagnie des Revues.
La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
En compagnie aujourd'hui du Figaro littéraire, représenté par son rédacteur en chef Étienne de Montetti. Bonjour Étienne.
Bonjour Mathieu.
Vous venez nous parler du livre de Dominique Barberis, Un dimanche à Ville-d'Avray. Que fait-on le dimanche à Ville-d'Avray?
Ben d'abord, on quitte vraiment le flamboiement du Gréco ou de...
Oh, dites pas ça pour les gens qui habitent à Ville-d'Avray.
Pour au contraire gagner une bourgade paisible de la banlieue ouest aux rues calmes. Et un dimanche à Ville-Barbray, c'est sûr que c'est une promesse de bonheur tranquille et mesurée. Et pourtant, les façades des maisons en meulière peuvent cacher des tragédies ou simplement de belles histoires. Et c'est l'une d'elles que la romancière Dominique Barberis entreprend de raconter.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce roman?
Ben, c'est tout simple au départ. La narratrice du roman s'en va passer une après-midi chez sa sœur, qui s'appelle Claire-Marie, et qui habite Ville-d'Avray. Celle-ci est en apparence l'exemple d'une vie sans aspérité. Elle a un mari médecin, une fille qu'elle aime, et un quotidien harmonieux dans lequel on ne voit pas très bien où le romanesque trouverait à se cacher. Et pourtant, ce jour-là, au cours de la conversation, Claire-Marie va se laisser aller aux confidences et on découvrira que la plus rangée des deux sœurs n'est pas celle qu'on pense et que l'imprévu n'est pas forcément l'apanage des Parisiennes. En effet, Claire-Marie raconte à sa sœur, elle, la femme rangée du docteur, qu'elle s'est laissée un jour attirer par un patient de son mari. C'est un homme mystérieux qui se dit hongrois, exportateur de matériel vers l'Amérique latine. Et étonnamment, ce Mark Herman, puisque c'est le nom qu'il lui a donné quand il s'est présenté à elle, eh bien va représenter pour cette femme l'indéfinissable aventure qu'elle recherche. Sa conversation, son parfum d'inconnu vont mettre un peu de feu dans un quotidien rangé, comme si elle attendait autre chose. Alors vraiment, le lecteur se pose une question, c'est est-ce que le bovarisme est un mal qui frappe forcément les épouses de médecins?
Peut-être.
Il y a une autre question, tout au long de ce court livre, c'est qu'est-ce qui va arriver à Claire-Marie? On frémit tout au long de cette confession, on craint le pire, une agression, on craint aussi le banal, l'adultère. Et pourtant, on a tort et le grand mérite en revient à l'auteur.
Alors justement, dites-nous-en un peu plus sur la manière de l'auteur.
C'est un livre qui tient à cette manière, c'est-à-dire cet art qu'a Dominique Barberis d'écrire, une maîtrise parfaite de la langue et du récit. Elle a choisi un style en demi-teinte, elle distille les mots avec beaucoup de parcimonie, parce qu'elle voit bien qu'un éclat de voix viendrait tout gâcher. Alors elle installe un climat, c'est l'automne, la nuit gagne, les rues de la ville sont désertes, formant un décor parfait pour ce qui semble se jouer entre Claire-Marie et ce mystérieux inconnu. Mais il faut pas en dire plus. Ce qu'il faut dire en revanche, c'est que loin des canons de la littérature contemporaine qui s'obstine à disserter avec plus ou moins de talent, plus ou moins de réussite sur des thèmes dans l'air, notamment la condition féminine, Dominique Barberis fait exactement le contraire. Elle ne se fie qu'à sa voix intérieure. Elle parle d'une femme d'aujourd'hui, elle aussi, mais avec les mots de l'Éternel, et elle offre là un des plus jolis récits de la saison.
Merci beaucoup Étienne de Montetti. Un dimanche à Ville-d'Avray de Dominique Barberis est publié aux éditions Arléa. Et puis je rappelle qu'on peut retrouver votre signature tous les jeudis dans le Figaro littéraire. À très bientôt Étienne. C'était La Compagnie des Œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Élise Leu. Demain, nous irons visiter l'exposition consacrée au Gréco qui va s'ouvrir mercredi dans les salles du Grand Palais à Paris. Nous serons pour ce faire avec Charlotte Chastel-Rousseau et Véronique Gérard-Powell. Tout de suite sur France Culture, on retrouve les sciences.